Vivre FM, podcast. Jusqu'à 13h, le grand témoin.
Défi du quotidien sur Vivre FM.
Benjamin Moreau, Jean-Baptiste Bergès.
Bonjour Jean-Baptiste Bergès.
Bonjour Benjamin.
Aujourd'hui, vous allez recevoir l'auteur d'un livre qui a un nom particulier, bizarre, j'irais même jusqu'à dire, Le théorème de la chaussette.
Le théorème de la chaussette, c'est le titre de la biographie, l'autobiographie même de Fabrice Bertin. Fabrice Bertin est sourd, il est atteint d'une maladie neurologique et il a décidé de raconter son parcours de vie singulier dans un ouvrage rempli d'humour. Vous allez voir que dans cette émission, on ne va pas s'ennuyer du tout. On va évoquer des thèmes forts hein, comme le handicap, le fauteuil roulant, l'homosexualité, la langue des signes ou encore la culture sourde, le tout dans la bonne humeur.
Fabrice Bertin est sourd, mais il va parler pendant une heure sur Vivre FM.
Jusqu'à 13h, le grand témoin.
Défi du quotidien sur Vivre FM.
Jean-Baptiste Bergès.
Le grand témoin d'aujourd'hui s'appelle Fabrice Bertin et il vient nous présenter son livre intitulé Le théorème de la chaussette. C'est publié aux éditions Ice Edition. Fabrice Bertin va nous raconter son parcours de vie assez singulier. Et nous sommes accompagnés d'Alexandra, son interprète, une interprète féminine. Mais Fabrice est bien en face de moi et il va pouvoir répondre à mes questions en signant puisque Fabrice est sourd et il souhaite aujourd'hui parler justement de son parcours de vie et de son quotidien en tant que personne sourde. Fabrice, c'était important ce livre pour vous de vous exprimer, de raconter votre quotidien justement. Pourquoi vous avez décidé d'écrire ce livre ?
Alors au départ, c'était une façon de me mettre un petit peu à nu sur mon parcours. J'avais pas l'intention de me montrer comme un modèle, simplement de pouvoir faire part de mon expérience, peut-être simplement de mon point de vue, de mon recul. J'avais envie aussi de dire que je me sens pas comme une personne handicapée, mais que c'est finalement le regard de la société qui fait mon handicap. À ce moment-là, je ressentais une grande colère à l'intérieur de moi, parce que ras-le-bol de cette société qui me catégorise comme une personne handicapée. Et donc j'ai eu envie de réfléchir sur les critères de ce regard sociétal sur moi. Qu'est-ce qui fait qu'on m'appelle personne handicapée ? Qu'est-ce qui fait qu'on crée mon handicap ? Par exemple ici, personne ne connaît la langue des signes. J'aurais envie de dire, vous pourriez aussi être cataloguée comme des personnes handicapées. Puisque vous êtes handicapée pour discuter avec moi, puisque vous ne connaissez pas ma langue. Donc finalement je me suis dit, mais finalement qu'est-ce que c'est que le handicap ? À côté de ça, j'avais envie d'écrire un roman par rapport à mon chien. Et je me suis dit à ce moment-là, souvent les chiens, c'est un petit peu des animaux qu'on met un peu de côté, qu'on considère comme des êtres inférieurs. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de comparer ces deux représentations. Nous les humains, par rapport à ces animaux, notre attitude vis-à-vis d'eux. Et parfois j'ai le sentiment que ces animaux-là sont bien meilleurs que nous les humains.
Donc c'est à la fois, c'est romancé mais c'est aussi autobiographique, on est d'accord Fabrice ?
Oui, tout à fait. C'est à la fois un roman et à la fois une autobiographie.
Donc on va revenir tout au long de cette émission sur votre parcours de vie, sur les différentes étapes de votre vie, avec beaucoup d'humour hein, quand même. L'humour, c'est quelque chose, c'est une de vos caractéristiques, c'est ce qui caractérise un peu votre personnalité.
C'est ce qu'on dit, oui, tout à fait. Ça me semble important. J'ai l'impression que l'humour me permet de prendre du recul sur les situations de la vie quotidienne.
C'est un moyen un petit peu aussi de faire parler de la communauté sourde. Vous vous sentez oublié un petit peu dans notre société ? Vous avez eu raison lorsque vous avez dit qu'on était handicapé. Nous, c'est vrai qu'on est handicapé, on ne connaît pas la langue des signes. Mais dans les médias, est-ce que vous vous sentez un petit peu oublié ?
Ah oui, mais complètement. Bien évidemment, complètement. On est complètement oublié. Et en plus, j'ai l'impression que c'est de pire en pire. Si je regarde un petit peu en arrière, il y a une vingtaine d'années, souvent on disait, on va faire du mieux, on va apporter quelque chose en mieux, on va nous aider. Et puis au final, tout ce qu'on a essayé de mettre en place, on nous a oublié dans les faits. On est complètement exclu de la société. Parce que quand on parle de personnes handicapées, moi je suis en fauteuil, hein, je suis malade, donc je suis en fauteuil. C'est un handicap au quotidien. Et en tant que sourd, je ne me sens pas handicapée. C'est pour ça que je parlais que la société crée cette représentation du handicap. C'est la façon dont on vous regarde qui suscite le handicap.
Donc ici, nous, sur Vivre FM, on essaie de faire changer le regard face au handicap et face à la différence surtout. Alors votre livre, il s'intitule Le théorème de la chaussette. Un livre qui nous a fait un titre qui nous fait assez rire, sourire, Le théorème de la chaussette. Pourquoi ce titre, Fabrice Bertin ?
Alors pourquoi ? Alors vous savez, moi je suis quelqu'un qui a du mal à faire avec les normes. Et c'était vraiment un petit symbole. Alors, on est à la radio, donc vous ne les voyez pas, mais moi, j'ai réellement deux chaussettes différentes. Hein. Je porte à chaque fois, au quotidien, j'aime bien mettre des chaussettes différentes. C'est une façon un petit peu de me moquer de la norme. J'ai un petit côté anti-norme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand on parle d'anti-norme ? C'est surtout que j'essaye de me battre contre les représentations. Les représentations qui font que les uns et les autres, au quotidien, on les enferme dans des boîtes. Parce que souvent, les représentations, elles viennent de la majorité qui s'oppose à la minorité. Alors, quand je parle de normes, cette envie de militer un peu contre la norme, j'avais envie de dire, c'était un petit clin d'œil à ces deux chaussettes différentes que je porte au quotidien. C'est un vêtement un peu invisible. Hein. Quand on se regarde, quand on se rend compte, on voit le maquillage sur les gens, on voit le pull ou le manteau qu'ils portent. C'est quelque chose d'assez visible. Les chaussettes, c'est beaucoup plus invisible. Ça fait partie de l'intime. Et c'est une façon un petit peu de à la fois de se montrer puis de se cacher aussi. Et puis troisièmement, moi souvent j'ai vécu dans mon parcours des situations d'exclusion. D'abord parce que j'étais sourde. Quand les gens étaient en discussion à l'oral, je me suis très souvent sentie en exclusion. Et un peu comme une chaussette qu'on jette un peu sur le côté, quoi. C'était un peu l'image. Une chaussette qu'on oublie un peu sur le bas-côté.
Le symbole est assez fort. C'est vrai que dès notre enfance, on nous oblige à mettre deux chaussettes identiques, alors que c'est vrai, pourquoi on ne devrait pas les dépareiller ? Vous avez raison, Fabrice. J'aime beaucoup cette symbolique.
Oui, tout à fait. Exactement. Je suis bien d'accord avec vous.
Alors, votre enfance, justement, on va revenir un petit peu sur votre parcours, Fabrice Bertin, parcours que vous racontez dans ce livre, hein, le théorème de la chaussette. Racontez-nous un petit peu, donc vous êtes malentendant depuis l'enfance ?
Alors, je suis née comme ça. Alors, vous savez, je ne suis pas un Superman. Ce que j'essaye d'expliquer dans mon parcours de vie, c'est qu'au final, on est tous à avoir des différences. On est tous à vivre des obstacles dans notre vie. Qu'on soit sourd, qu'on soit malade, dans un fauteuil ou pas, ou que notre handicap soit visible ou non. Et que finalement, on est confronté, en vivant dans notre société, à avoir des obstacles dans la vie qu'il faut dépasser. Donc, j'ai eu envie de raconter ma vie, pas parce qu'elle est exceptionnelle, hein, surtout pas pour m'ériger en modèle, juste parce que je voulais la partager.
Bien sûr, et puis nous ici, les témoignages servent justement à apporter parfois du soutien, parfois des réponses à des interrogations à certaines personnes qui vivent la même chose que vous. C'est pour ça que c'est important de témoigner.
Tout à fait. Enfin, oui, ça me semble... Enfin, j'espère que c'est utile.
Alors, quel souvenir vous gardez de votre enfance ? Comment justement vous avez vécu cette différence ? À quel moment a-t-on détecté votre surdité, Fabrice Bertin ?
Alors, j'avais à peu près 5 ans, 4-5 ans. Pour tout vous dire, je ne me souviens pas de cette période comme d'un traumatisme. Peut-être que ça l'a été pour ceux qui m'entouraient, pour mes parents, pour les adultes autour de moi. En tout cas, moi, je ne l'ai pas vécu comme quelque chose de traumatisant. En fait, moi, je passais mon temps à jouer comme n'importe quel gamin de l'époque. C'est tout ce à quoi je pensais.
Et l'école, plus tard, justement, la scolarité ?
Vous savez, tout mon parcours scolaire, à ce moment-là, je pense qu'à partir du collège, précisément, ça a été... Là, les choses ont commencé à se complexifier. Moi, j'étais toujours en essayant de faire en sorte de me débrouiller. Hein. J'étais dans un petit village à cette époque-là, au départ, dans ma scolarité. Donc, c'était assez facile, puisqu'on se débrouillait pour faire en sorte de m'intégrer au mieux. Et quand je suis rentrée au collège, là, les choses se sont complexifiées parce que j'étais avec des ados de mon âge, évidemment. Le regard des autres, ça devient difficile. Au lycée, c'était encore pire. Le nombre aussi autour de moi. Et quand je dis c'était encore pire, c'était surtout par rapport au regard des adultes, au regard des profs, au regard que les profs posaient sur moi. J'étais un petit peu hors norme, j'étais juste hors cadre et on se demandait ce que je foutais là. On ne savait pas très bien où me ranger et quoi faire avec moi. Et ça, c'était le plus difficile à vivre. Après, moi, je me sentais mal parce que c'était compliqué. Il fallait gérer la situation que je devais assumer puisque j'étais dans un parcours scolaire. Je me sentais extrêmement seule. J'avais pas en face de moi d'autres adultes sourds parce que mon grand-père était sourd, mais il est mort quand j'avais 13 ans. Donc, j'étais encore très jeune à l'époque. J'avais 13 ans et donc après, il a fallu faire sans lui. Je n'avais pas d'autres modèles, d'autres référents adultes sourds autour de moi.
D'accord, parce que vous étiez dans un établissement scolaire public, pas dans un établissement spécialisé. Donc, du coup, vous avez dû vous débrouiller.
Un établissement public, tout à fait.
Vous faisiez comment ? Vous lisiez sur l'élève des professeurs ? Comment vous avez suivi une scolarité ? Parce que vous avez quand même fait une scolarité brillante. Vous êtes devenu professeur à votre tour. Qu'est-ce que vous avez mis en place justement pour vous en sortir?
Au départ, vous savez, sincèrement, moi, en tant qu'enfant sourd, j'avais l'habitude de suivre les cours comme je pouvais. Et puis petit à petit, je me suis organisée pour essayer de comprendre un maximum. Vous parlez de lecture labiale, c'est quelque chose qui est vraiment pas facile, hein. Mais en tout cas, vous imaginez que l'enseignant qui devrait normalement s'adapter à ses élèves en termes de pédagogie, ne serait-ce que pour respecter la différence de chacun, eh bien, c'était rarement le cas. Donc, il y a bien souvent des enfants sourds qui font de l'orthophonie. Moi, je n'ai jamais fait d'orthophonie. Hein. Je n'ai jamais été dans un parcours de rééducation. Moi, j'ai essayé toujours de comprendre le sens. En fait, j'étais en quête permanente du sens. Et puis, petit à petit, j'ai compris ce qu'on a appelé ma différence. Et je me souviens à l'école, il y avait une affiche qui était inscrite, qui était accrochée dans une classe, avec des symboles orthophoniques qui étaient faits pour les autres enfants. Je me souviens que ça m'avait marqué parce que j'avais du mal à comprendre de séparer le sens de la forme. Alors bien sûr, vous me parlez de mon parcours scolaire. Je me souviens très bien qu'au collège, il y avait plein de choses auxquelles j'avais pas accès. Évidemment, qu'il y avait plein de choses que je comprenais pas. Moi, j'ai essayé de rattraper par les livres que j'ai lus, par un travail personnel ardu qui m'a permis de garder le niveau.
Donc voilà, il a fallu redoubler d'efforts, travailler plus que les autres. Surtout que vous aviez des rêves, vous aviez envie de devenir journaliste. Comment réagissent les adultes justement autour de vous, les conseillers d'orientation, les professeurs, lorsque vous leur dites que vous avez envie d'être journaliste, de faire des études?
Alors moi, le pire traumatisme dont je me souviens, c'est que je me souviens avoir rencontré un conseiller d'orientation, puisque vous en parlez. Moi, j'avais confiance dans cet adulte-là, hein, puisque je voulais devenir journaliste, il était censé pouvoir m'aider. Donc peut-être que j'avais à l'époque un espoir qui était sans doute illusoire, j'en sais rien. En tout cas, arrivé là, il s'est moqué de moi, il s'est complètement foutu de moi. Et finalement, il s'est moqué sans... Quand je vous dis « il s'est moqué de moi », il n'y avait pas besoin d'utiliser des mots pour ça. Il m'a regardé avec un dédain absolu. Son regard était complètement méprisant. Et ça m'a profondément vexée à l'époque. Vraiment, vraiment. Son attitude m'avait profondément blessée. Parce que vous savez, il y a plein de sourds encore aujourd'hui, bien évidemment, ou des personnes en fauteuil qui sont malades, etc., qui se sentent complètement dévalorisées à cause du regard des autres. Parce qu'ils ont vécu comme ça des situations où il y a des personnes qui s'en rendent compte ou non, ont posé un regard sur eux qui les a littéralement dévalorisés. Et ça, c'est très, très important au quotidien. Moi, je voulais devenir journaliste à l'époque et j'ai gardé ça pendant une trentaine d'années. Et peut-être pour ma prochaine vie, allez savoir, j'en sais rien. Peut-être je deviendrai un jour journaliste. En tout cas, je l'ai pas encore réussi, ce rêve-là.
En tout cas, vous écrivez, c'est aussi une manière de vous exprimer, puisque ce livre, Le théorème de la chaussette, c'est votre troisième livre. Vous aviez publié déjà deux livres, Les sourds, une minorité invisible chez les éditions Autrement et Ferdinand Berthier ou Le rêve d'une nation sourde chez Monica Company. Restez avec nous, Fabrice Bertrand, on marque une courte pause et dans un instant, on continue de dérouler votre parcours de vie et de parler justement de ce livre que vous venez nous présenter aujourd'hui. À tout de suite sur Vivre FM.
Jusqu'à 13h, le grand témoin.
Défi du quotidien sur Vivre FM.
Jean-Baptiste Bergès.
Le grand témoin aujourd'hui s'appelle Fabrice Bertrand. Il est auteur du livre intitulé Le théorème de la chaussette. C'est publié aux éditions Ice. Livre dans lequel il revient sur son parcours de vie. Fabrice Bertrand est né sourd et il a dû affronter surtout le regard des autres, justement pour faire face et s'insérer dans notre société. Aujourd'hui, il est fier de raconter son histoire. Il est fier de raconter son parcours de vie. Vous êtes professeur d'histoire-géographie, hein, docteur en histoire de l'université de Poitiers, puisque l'histoire, c'est une matière auquel vous êtes passionné. Justement, vous nous avez parlé de votre parcours de vie au collège et au lycée. L'histoire, ça a été une matière qui vous a passionné dès le début. Pourquoi, Fabrice, d'ailleurs? Vous avez une explication sur ça, sur votre passion pour l'histoire?
Alors, pourquoi l'histoire? C'est vrai que, pour moi, l'histoire, c'est comme une façon de voyager. C'est une façon de découvrir le monde de part en part. Alors, pas voyager sur la Terre, mais voyager dans l'histoire de l'humanité. Et c'est vrai qu'avant, quand on plonge dans l'histoire, on parle de culture, on parle d'humain. Et c'est une façon pour moi de réfléchir et découvrir notre humanité. C'est comme une façon de voyager, mais peut-être de voyager dans le temps.
Et il y a un lien aussi avec votre envie de devenir journaliste, puisque l'actualité, c'est un peu l'histoire, c'est l'histoire du moment, c'est des faits qui restent dans l'histoire. Il y a un lien entre tout ça, en tout cas.
Ah oui, c'est certain, bien sûr. Un lien très, très fort, ça, c'est sûr. Parce que quand je vous parle de voyage, un voyage dans le temps, C'est aussi un voyage dans le monde. C'est aussi se déplacer, rencontrer des gens dans leur façon de vivre. Être journaliste, c'est ça pour moi. C'est avant tout aller à la rencontre des autres. Quand j'y réfléchissais, aussi loin que je m'en souvienne, je me disais qu'être journaliste, c'est à la fois évidemment s'informer, mais d'abord, si je dois le rapporter aux sourds, c'était aussi une façon de les entendre, quoi. Les faire entendre. Donc finalement, je suis d'abord devenue enseignante parce que c'est ce qui m'a permis de m'adresser davantage aux sourds dans ma volonté de transmettre. Et puis peut-être journaliste un jour, allez savoir.
Alors justement, vous nous parliez de votre scolarité tout à l'heure. Est-ce que les choses ont évolué aujourd'hui concernant les enfants sourds et les élèves sourds? Est-ce qu'ils sont plus pris en charge que lorsque vous étiez, vous, élève?
Alors, c'est une question assez complexe. Ça dépend des situations, en fait. Je dirais, dans la globalité, pour moi, je pense que la situation est bien pire aujourd'hui que celle qui était la mienne. Parce que, vous voyez, autrefois, on était réunis à plusieurs, en petits groupes. L'enseignant apprenait à moins d'élèves. Je pense qu'il y avait plus d'échanges d'un point de vue de la pédagogie. Par rapport à aujourd'hui, on a plus des intégrations individuelles des élèves sourds. Et pour moi, je trouve que ce système d'enseignement et d'apprentissage est peut-être mieux pour le système en lui-même, mais moins pour l'élève. Parce qu'on est moins dans l'échange et dans l'apprentissage collectif. Par rapport aux ados, il est évident que ce qui est hyper important, c'est la relation, la relation les uns avec les autres, les interactions, et ça, on n'en a plus lorsqu'on est dans le cadre d'une intégration individuelle. Il y a de plus en plus d'enseignants qui savent plus ou moins la langue des signes, mais souvent, ils ont une maîtrise de la langue qui est quand même assez partielle. Donc, c'est le regard sur la langue des signes est encore celui, disons, considéré, la langue des signes est encore considérée comme un outil, uniquement comme un outil.
La langue des signes, justement, vous en parlez hein, dans votre livre. C'est une langue que vous avez dû apprendre. Vous dites qu'il n'y a rien d'inné dans cette langue des signes. Il vous a fallu l'apprendre. Aujourd'hui, on peut discuter grâce à votre interprète Alexandra, qui elle aussi parle la langue des signes. Il y a plein d'idées reçues. Certaines le confondent avec le braille. Est-ce que vous pensez qu'il y a, là aussi, il y a de l'information à faire autour de la langue des signes?
Ah ben ça, c'est clair. Ça, c'est clair. C'est comme vous, vous êtes né dans la langue française et vous l'avez appris par immersion. Hein. Vous n'êtes pas né avec la langue à l'intérieur de vous de façon innée. Donc, c'est pas quelque chose qui vous vient génétiquement. C'est parce que vous êtes né dans la famille où vous êtes né et là où vous êtes né qui fait que vous apprenez une langue. Donc, la difficulté, c'est que bien souvent, les gens considèrent que la langue des signes, c'est uniquement un code, et notamment la confusion avec le braille. Là, on est dans quelque chose de complètement incroyable.
Vous vous racontez que ça a été compliqué pour vous de l'apprendre et après, il y a eu un déclic dans votre vie lorsque vous avez découvert Emmanuel Laborie qui a reçu le Molière et qui avait la langue des signes. En quoi ça a été important pour vous, cette découverte?
Alors, si je dois parler de déclic, c'est qu'à ce moment-là, moi, je me suis dit que je n'étais pas tout seul au monde, en fait. J'ai découvert via la télévision que, comme je vous disais tout à l'heure... Il y a une vingtaine d'années, c'était pas simple d'être sourd. Aujourd'hui, quand je dis c'est pire, c'est pas parce que on en parle moins, mais que finalement, c'est plus difficile de se retrouver. La langue des signes, elle est devenue plus visible, mais les sourds le sont moins, paradoxalement. Et lorsque j'ai vu Emmanuel Laborie à la télévision, je m'en souviens, ça a été un choc incroyable parce que je me suis dit, alors il y a d'autres sourds. Et en plus, il s'exprime en langue des signes. Je pensais que j'étais seule à l'époque. Moi, je pensais que la langue des signes, c'était une langue qui n'était pas belle, qu'il ne fallait pas trop montrer, etc. Et là, je la vois à la télé, belle comme tout, qui signe avec une langue merveilleuse. Pour moi, ça a été un choc incroyable.
Quand c'est que vous avez commencé à l'apprendre, justement, racontez-moi votre apprentissage de la langue des signes.
Alors, moi, j'étais avec mon grand-père au départ, quand j'étais gamin. Donc, j'ai grandi jusqu'à l'âge de 13 ans avec lui. Donc, on signait tous les deux, hein, entre nous. Mais... vous savez, on se voyait pas tout le temps, mais en plus, à partir de 13 ans, quand il est mort, jusqu'à l'âge de 18 ans environ, toute cette période-là, quand on parlait d'Emmanuel tout à l'heure, j'avais vu à la télévision, pendant ces 5 années-là environ, j'ai plus, quasiment plus utilisé la langue des signes. Donc j'avais cette langue qui était à l'intérieur de moi, hein, je ne l'avais pas perdue. En fait, je l'avais apprise au contact de mon grand-père, mais... et puis ça s'est réveillé lorsque j'étais en contact d'autres sourds. Parce que, vous voyez, par rapport à la langue française à laquelle je faisais référence tout à l'heure, c'est quelque chose qu'on apprend à l'école, on vous fait réfléchir sur la langue, on vous l'apprend en cours, en classe. La langue des signes, c'est très différent. On ne vous l'apprend pas à l'école. Donc, à l'heure actuelle, on apprend plus la langue des signes pour les enfants entendants. Alors, c'est super, hein. C'est très bien. On parle même des bébés entendants à qui on veut apprendre la langue des signes de façon très précoce. Moi, je trouve ça très, très bien. C'est super. Mais les enfants sourds, eux, on veut les implanter pour qu'ils arrêtent d'être sourds.
C'est une vraie problématique.
C'est un paradoxe.
Donc, votre livre, Fabrice Bertin, Le théorème de la chaussette, les droits d'auteur sont reversés, une partie des droits d'auteur, à Andy Chien. Pour quelle raison, justement? Pourquoi vous avez choisi de reverser une partie des droits d'auteur à Andy Chien?
Alors, dans le livre, ce que je vous raconte, c'est que Andy Chien, c'est une association qui m'a permis de bouleverser ma vie grâce aux chiens qu'ils m'ont donnés. Ils ont éduqué mon chien et lui ont permis de pouvoir devenir ce qu'il était, lui apprendre à m'aider au quotidien, et ça coûte 15 000 euros. Donc, c'est une façon aussi de leur rendre un petit peu l'appareil pour tout ce qu'ils m'ont apporté. Parce que c'est une éducation tout à fait particulière, ces chiens d'assistance pour les personnes en fauteuil ou qui en ont besoin, des personnes âgées ou des enfants trisomiques, par exemple. Moi, j'aimerais aussi que ça puisse permettre à des personnes sourds-aveugles de pouvoir aussi gagner en autonomie. Donc, c'est vraiment très, très, très utile. On est en discussion comme ça, de savoir est-ce que ça pourrait être possible pour des personnes sourds-aveugles. Donc, et d'ailleurs, je reviens sur cette histoire, c'est que ce n'est pas des gens qui sont sourds et aveugles, c'est des personnes qui sont sourdes-aveugles dans leur identité propre. Et donc, je dis, ça pourrait être très utile aussi pour ces personnes-là. Donc, je pense que ces chiens sont vraiment quelque chose qui nous permet d'accéder à une véritable autonomie. Je rêve que ça puisse être adapté pour des personnes sourdes-aveugles. Donc, ces droits d'auteur sont reversés à Andy Chien. C'est une façon de pouvoir les soutenir dans leurs actions.
Parce qu'il faut rappeler que vous vous déplacez en fauteuil puisque vous souffrez d'une maladie neurodégénérative, c'est ça, qui est arrivée à quel âge?
Alors, elle a été dépistée, ma maladie, on va dire assez tard, si on doit se référer à une forme de norme. J'avais à peu près 28 ans, à peu près environ 28 ans. Donc on peut dire par rapport à la moyenne que c'est un dépistage assez tardif. Et je suis en fauteuil depuis une dizaine d'années à peu près. J'ai commencé à être vraiment dans mon fauteuil depuis une dizaine d'années. On va dire assez tard. Assez tard par rapport aux enfants que je croise et qui sont déjà en fauteuil, jeunes ou adolescents qui sont déjà en fauteuil.
Ça a quelles conséquences cette maladie pour l'avenir?
Alors, c'est assez difficile de vous répondre parce que c'est une maladie orpheline. Hein. Donc, comme les maladies orphelines, c'est une maladie rare, on ne la connaît pas et on ne connaît pas de là où elle part et là où elle vous emmène. Donc, le problème aujourd'hui, pour moi, est plutôt un problème pour gérer un problème d'équilibre pour la marche. Donc, je ne peux pas marcher, j'ai un problème de déséquilibre permanent. Et pour le moment, c'est uniquement ça, mon problème. Après, ce que ce sera demain, je n'en sais rien. Peut-être que ça pourra atteindre mes mains, peut-être que ça pourra atteindre mes yeux. Je ne saurais vous dire, je n'en sais rien. Je n'en sais rien.
En tout cas, on fait
j'espère juste que ça n'arrivera pas.
Nous aussi. On fait beaucoup d'émissions sur les maladies d'orphelines parce que c'est vrai qu'il y a là aussi un manque d'informations. Et c'est important à travers votre livre aussi et votre histoire, votre parcours de vie, de parler de ça et de témoigner, j'imagine aussi, en plus de la problématique de votre surdité.
Tout à fait. Bien sûr que c'est important. Parce que souvent, on va dire que c'est important que les sourds puissent participer à la communauté entendante. Mais pour ce qui concerne une maladie rare... Les gens ne la connaissent pas, ils n'en ont jamais entendu parler et ont envie de la tenir le plus loin à distance d'eux pour éviter d'être contaminés, j'ai envie de dire. Donc c'est une toute petite minorité au sein déjà d'une minorité qui est celle des sourds. Et bien souvent, j'ai l'impression d'être soumis à une double discrimination. Et dans ma maladie, et dans ma personnalité en tant que sourd.
Fabrice Bertin, reste avec nous. Vous êtes le grand témoin aujourd'hui sur Vivre FM. On va marquer encore une autre courte pause et on revient juste après pour continuer de parler de votre parcours de vie, de ce livre qui s'intitule Le théorème de la chaussette. C'est publié aux éditions ICE. Je le conseille à tous nos auditeurs. À tout de suite sur Vivre FM.
Midi 13h, le grand témoin, défi du quotidien sur Vivre FM, Jean-Baptiste Bergès.
Nous sommes toujours en compagnie de Fabrice Bertin sur Vivre FM. Il est le grand témoin d'aujourd'hui. Fabrice vient nous raconter son parcours de vie. Nous pouvons discuter, dialoguer grâce à Alexandra, son interprète, puisque Fabrice est sourd de naissance. Et cette surdité, justement, il en parle dans ce livre qui s'intitule Le théorème de la chaussette. C'est publié chez Aïe Édition. Un livre, un roman, mais également un roman autobiographique. autobiographique, hein, avec beaucoup d'humour, puisque ça c'est un trait de caractère de Fabrice Bertin, l'humour. Et dans ce livre, eh bien, vous parlez donc de votre parcours de vie, mais du handicap aussi, de la langue des signes, de la culture sourde, de l'homosexualité également. Vous avez voulu parler de vous dévoiler vraiment et parler de tous les thèmes. Ça, c'était important pour vous, Fabrice Bertin.
Ah oui, tout à fait. Justement, la notion d'handicap, je vous ai revenir un petit peu là-dessus parce que, vous savez, quand je parle de représentation de handicap, moi, je suis contre toute forme de représentation. Pour moi, c'est une façon d'avoir une charge supplémentaire en tant que personne, comme si on venait vous coller une étiquette sur le dos. Et cette histoire d'handicap, moi, je le dis et je l'affirme, personne n'est handicapé dans un sens. C'est vraiment la société qui vous met un handicap. En plus, moi, en tant que personne, quelles que soient mes limites, je me sens pas handicapée. Pas du tout. C'est vraiment quelque chose que je réfute. On vous met un H sur le front et on vous dit, vous êtes comme ça, et on vous enferme dans une catégorie.
Donc ça, c'est vraiment, on peut dire, votre coup de gueule contre notre société. C'est cases où on essaie de vous mettre.
Tout à fait, c'est mon combat. Je peux dire que c'est mon combat.
Mais c'est dans... En fait, c'est dans...
Par rapport à la norme
et
l'étiquette du handicap qu'on vous colle sur le dos.
Mais c'est propre à toutes les différences, du coup.
Oui, tout à fait. Vous savez, quand on parle de représentation, finalement, toute personne handicapée ne se dit pas, elle ne se dit pas, elle ne s'interroge pas sur son propre handicap. Ce sont les autres qui la définissent ainsi. Quand on est en face à face, j'ai envie de dire, là, on est sur un handicap partagé. Moi, si je suis tout seul, je ne me sens pas handicapée. Une personne toute seule, elle n'est pas handicapée. C'est plutôt par rapport à sa relation avec les autres. C'est quand on est au quotidien, c'est le vivre ensemble qui crée l'handicap. Quand vous êtes dans un ascenseur, vous retrouvez en panne, si vous êtes plusieurs, vous êtes tous handicapés, puisque vous ne pouvez pas vous déplacer là où vous avez à aller. Donc finalement, la notion d'handicap, c'est une notion qui est en lien avec l'interaction que vous avez avec les autres. Et oui, vous parliez de mon combat. C'est vrai que dans les différents thèmes que vous avez évoqués, moi, j'essaye de combattre cette histoire de normes qui vous empêche de vivre comme vous êtes. Parce que finalement, on est tous dans nos singularités. Et cette diversité-là, c'est ce qui fait notre richesse. Après, je pense que la norme devrait être créée en fonction des individus et pas les individus en fonction de la norme. Parce que la norme, elle vient de la majorité, mais de qui on parle quand on parle de la majorité, après tout?
On ne sait pas ce que c'est la normalité, en fait.
Et en plus, il y a quelque chose qui m'énerve tout particulièrement. Vous savez, quand on parle de... Moi, j'aime bien comparer l'histoire des sourds avec l'histoire de l'esclavage. Vous aviez beaucoup de personnes noires et puis vous avez des blancs qui sont arrivés un jour et qui ont dit « Allez hop, au boulot, mettez-vous au travail ». Et bien finalement, avec les personnes handicapées, c'est un peu la même chose. Vous avez d'un coup quelqu'un, un groupe de personnes qui prend le pouvoir en décrétant que les uns sont supérieurs aux autres qui sont inférieurs. Et souvent, j'ai envie de dire, les personnes handicapées ne sont pas celles que l'on croit. Finalement, on a créé le terme de « valide » par rapport à la notion d'handicap, mais ce sont ces valides-là qui nous ont instaurés dans quelque chose de dévalorisant et d'inférieur. Finalement, c'est complètement faux, cette histoire. Ça vient de nulle part.
Alors, Fabrice Bertin, justement, donc vous nous avez raconté un petit peu votre parcours scolaire. Vous êtes devenu enseignant. Ça a été compliqué pour devenir enseignant, justement, et pour vous faire accepter. Vous enseignez l'histoire-géographie pour les enfants sourds, c'est ça, hein? Là aussi, ça a dû être compliqué, non?
Ah oui. Ah oui, on peut dire que ça a été compliqué, hein. Finalement, ce qui a été compliqué, c'est à cause de l'éducation nationale. Parce que pour moi, c'était très simple. Dans ma tête, c'était très simple. L'éducation, c'est avant tout un système qui, normalement, favorise l'intégration de chacun. Arrivé là, moi, quand j'ai voulu devenir enseignant, l'éducation nationale m'a fermé la porte au nez. Et je ne suis pas le seul à avoir vécu cette situation-là. C'est un système qui est complètement hypocrite. On vous dit qu'il s'agit absolument d'intégrer toute personne, mais à un moment donné, on vous regarde comme une personne handicapée, on vous ferme la porte parce qu'on ne sait pas où vous mettre.
Et donc, qu'est-ce que vous avez fait?
Et je trouve que c'est vraiment pas juste. Vous savez, moi, je suis quelqu'un qui aime le combat. Donc, dès que ça me met en colère, ça me donne l'envie et la rage de me battre. Donc, je suis allée au ministère de l'Éducation nationale et je suis allée pour argumenter et simplement défendre mon projet. J'ai attendu, j'ai beaucoup attendu et j'ai fini par obtenir gain de cause.
Ça veut dire que vous avez été accepté, vous avez pu enseigner, c'est ça?
Oui, j'ai eu le CAPES, bien sûr, grâce à ça. Ça n'a pas été simple, hein. Ça n'a pas été simple, mais on me l'a refusé à plusieurs reprises, hein. Donc à chaque fois, il a fallu que je me batte. Et au bout d'un moment, ils ont fini par en avoir un peu marre. Et donc, bon gré mal gré, ils m'ont permis de passer le concours. Mais vraiment bon gré mal gré, hein. Parce que j'ai fini par les user par mes arguments. Arrivée là, je me suis battue pour essayer de gagner ma place. J'ai fini par avoir un doctorat, ce qui était quand même la plus haute marche, hein, du système. Puisqu'on avait voulu me fermer la porte et me traiter de personne handicapée, j'ai essayé de me battre pour gravir la plus grande des places et d'obtenir la reconnaissance.
On sent que vous êtes un militant dans l'âme, et heureusement. Et la problématique, c'est toutes les personnes qui...
Tout à fait. Ah, ça, c'est sûr. Je le revendique. Je pense que la vie est faite de combats, oui.
Et du coup, quel conseil vous donneriez à des gens qui nous écoutent, là, et qui n'ont peut-être pas la même foi que vous pour aller justement au combat? C'est quand même important.
Alors, le conseil que je pourrais donner, si j'osais, c'est d'abord de s'écouter soi-même. Pas d'écouter ce qu'on dit de vous, ce qu'on vous raconte sur vous, en vous disant que vous êtes bon ou pas bon, et puis surtout pas si on vous dit que vous n'êtes pas assez bon, mais simplement d'apprendre à vous écouter d'abord, de poursuivre votre chemin. Parce que je pense que chacun d'entre nous, nous avons des compétences, du potentiel. Chacun, nous avons... la possibilité, nous avons de la beauté intérieure, ça c'est évident pour moi. Peu importe ce qu'on dit de vous, mettez de côté le regard des autres pour faire valoir votre propre regard. Et après, je dirais, moi, donner des conseils, c'est pas trop mon truc. Parce que j'ai aussi beaucoup de défauts, et donc j'évite aussi de les partager.
En tout cas, j'invite nos auditeurs à lire votre livre, Le théorème de la chaussette.
Dites-moi, juste j'aimerais ajouter quelque chose, une petite parenthèse. Par rapport à l'édition AIS, c'est une toute nouvelle maison d'édition. Et c'est avant tout une équipe de personnes sourdes qui se sont montées les manches en disant « Ben voilà, on va créer une maison d'édition dont le but va... » Bon, vous savez, c'est pas simple de créer une maison d'édition, déjà. C'est une façon pour eux de promouvoir des supports pédagogiques de qualité. Donc, je suis très très fière parce que mon ouvrage est le premier livre... à être paru par cette maison-là. Et en plus, je suis fière de leur confiance et de leur écoute.
Ils sont sur Paris ? C'est une maison d'édition sur Paris ?
Ils sont à côté de Clermont-Ferrand, basée à Riom. Alors peut-être, si vous voulez, sur votre site, je peux très bien donner le lien de la maison d'édition, si ça intéresse les auditeurs.
On mettra sur notre site, on mettra le nom de cette maison d'édition, AIS Édition, qui publie votre livre Le théorème de la chaussette. Alors, on va maintenant donner la parole à nos auditeurs. Ils ont été quelques-uns à vous envoyer des questions. C'est l'heure des questions des internautes. Et on a une première question de Ludovic de Versailles qui vous demande s'il y a des individus, des personnalités sourdes qui ont marqué l'histoire de France et que vous aimez particulièrement et qui vous ont peut-être influencé et aidé à avancer.
Alors, il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup qui m'ont marqué, qui m'ont influencé. Alors, moi, qu'ils soient sourds ou entendants, j'essaye de regarder les gens dans ce qu'ils sont. Et pas simplement, je m'intéresse pas qu'aux personnalités sourdes, bien évidemment. Alors, des gens qui m'ont marqué dans l'histoire, je sais pas si vous connaissez un Guadeloupéen, Toursaint l'Ouverture, qui est un Guadeloupéen qui m'a beaucoup inspiré, par exemple. C'est un militant pour la liberté et pour l'égalité. Un autre que je pourrais citer, Rosa Parks, évidemment, qui est aussi une figure qui m'a beaucoup inspirée.
Autre question de Martine Devry. Elle vous demande si vous avez réussi à avoir une vie affective, si vous réussissez à faire des rencontres, justement. Alors, Martine n'a pas encore lu votre livre, parce que oui, effectivement, vous racontez votre vie affective dans votre livre, hein, Le théorème de la chaussette. Mais ça a été compliqué, Fabrice Bertin, ou de faire des rencontres ou pas vraiment?
Alors, pas du tout. Je dirais que j'ai toujours eu beaucoup de chance, c'est que j'ai rencontré mon être extraordinaire. Bon, ça c'est très personnel, mais mon être extraordinaire, donc voilà, je l'ai rencontré, il est toujours avec moi.
Donc votre différence n'a jamais été une barrière pour trouver l'amour. Puisque de toute façon, votre différence, vous en faites une force, et c'est un peu ça votre discours aujourd'hui.
Tout à fait, exactement. C'est une force.
Autre question de Luc de Paris 13e, il vous demande quel est votre point de vue sur l'accessibilité des personnes handicapées justement dans Paris. C'est un vaste sujet politique justement.
Alors mon point de vue, Paris n'est pas une ville accessible. Hein. Je dirais assez proche de zéro, si je veux être un peu désagréable. Alors, on reparle des personnes handicapées, je redis, le handicap, il vient de l'accessibilité et du fait qu'il n'y ait pas d'accessibilité. C'est ça qui crée le handicap. Donc, quand on parle d'accessibilité, si on nous donne l'accessibilité, le handicap disparaît. S'il n'y a pas d'accessibilité, c'est là qu'on sent personne handicapée.
Et une autre question d'Isabelle de Paris 17e. Elle vous demande ce que vous pensez de la représentation de la communauté sourde au cinéma. Elle fait référence notamment au film La famille Bélier, qui évoquait ce sujet et qui, pourtant, ils n'ont pas pris d'acteurs sourds. Est-ce que vous avez un point de vue là-dessus ?
Alors, moi, ce film-là, c'est pas que je suis particulièrement contre. Ce que je remarque simplement, c'est que, en général, les sourds, en fait, nous, on a besoin de sous-titrage, on a besoin de langue des signes. C'est quand même quelque chose qui est déjà conséquent. Ensuite, on a des comédiens qui sont doués, hein, et c'est bien dommage qu'ils aient pas été choisis pour faire ce film, puisqu'on a ce qu'il faut, hein. Donc, je peux pas dire que je suis contre ce film, je m'interroge juste de pourquoi de ce choix de ces comédiens. Il y avait des comédiens qui pouvaient assumer complètement ces rôles, je m'interroge pourquoi on n'a pas fait appel à eux. Et c'est vraiment dommage parce que ce sont des comédiens sourds, talentueux, et que c'était l'occasion, justement, de pouvoir les faire travailler et puis les faire connaître.
Fabrice Bertin, c'est la fin de cette émission. Déjà, je vous remercie beaucoup d'être venu sur l'antenne nous parler de votre parcours de vie, de ce fabuleux message et témoignage que vous nous avez fait passer aujourd'hui. Je rappelle que ce livre s'intitule « Le théorème de la chaussette ». C'est publié chez Ice Edition et on retrouvera justement toutes les informations sur cette société d'édition sur notre site internet. Merci beaucoup Fabrice et merci à Alexandra, votre interprète, qui a été votre interprète pendant toute cette émission et grâce
merci.
À qui on a pu discuter aujourd'hui.
Merci.
Vivre.